Chapitre 49. Richard s'éveilla en sursaut quand il entendit la porte s'ouvrir. Un réveil pénible parce que Callan lui avait rendu visite dans ses rêves. S'il ne se souvenait jamais de ses songes, il savait que ceux de cette nuit avaient été habités par sa femme. Comme s'il avait vraiment été avec elle, il se sentit empli de sa présence et nourri de son amour. Mais tout ça venait de lui être arraché. Une fois conscient, il perdait immédiatement le contact avec l'essence de sa bien-aimée. Cette brutale séparation, venant s'ajouter à la triste réalité, était un véritable crève-cœur. Même s'il n'en gardait aucune image précise, Richard savait que le monde était plus beau dans ses rêves. La guerre n'y existait pas, la mort n'était qu'une lointaine possibilité et les séparations ne duraient pas plus de quelques heures. S'il avait pu choisir, Richard aurait fui la réalité à tout jamais. Mais personne ne pouvait dormir jusqu'à la fin des temps. Quand il essaya de s'asseoir, il constata qu'être allongé sur le sol de pierre lui laissait de désagréables courbatures. Son esprit n'étant toujours pas très clair, il estima n'avoir pas dormi plus de 2 ou 3 heures. Alors que des gardes entraient dans la pièce, il réussit à se relever et entreprit d'étirer ses muscles douloureux. Six entra, le visage toujours aussi blafard au milieu de sa couronne de cheveux noirs. Ses yeux bleu pâle se rivèrent sur Richard, le détaillant comme s'il était l'unique être vivant au monde. Sous ce regard, le prisonnier se sentit très vite écrasé, comme si une montagne venait de s'écrouler sur lui. Alors que la voyante approchait de lui, il mobilisa toute son énergie pour ne pas abdiquer face à sa pesante volonté. Comme s'il était dans une rivière aux flots déchaînés, lutter contre le courant se révéla presque impossible. Un échec de plus sur une longue liste.
« Suis-moi, nous devons aller dans les grottes et le temps presse. »
Au lieu de demander pourquoi il y avait urgence et de ne pas obtenir de réponse très probablement, Richard posa une question qui lui tenait à cœur et qui ne braquerait peut-être pas 6.
« Savez-vous où est Callan ?»
La voyante se retourna à demi.
« Bien sûr, avec Jagang. »
« Jagang ?» Richard crut qu'une seconde montagne venait de s'écrouler sur lui.
Six se souvenait de Callan, c'était déjà énorme. En plus, elle en savait long à son sujet.
Et elle semblait ravie d'avoir fait de la peine à son prisonnier en répondant à sa question.
« Allez, dépêchons-nous. »
Quelque chose n'allait pas. Richard n'aurait pas su dire quoi, mais il le sentait à la façon dont le pouvoir de Six agissait sur lui.
Elle le gardait sous l'influence de son sort de séduction, une main de fer dans un gant de velours, mais quelque chose avait changé. Il y avait chez Six une ombre de détresse. Oui, c'était le mot juste, de la détresse.
Au diable, les problèmes de la voyante.
Jagang tenait Callan. Bouleversé par cette nouvelle, Richard n'avait pas encore cherché à savoir pourquoi Six n'avait pas oublié sa femme comme le reste de l'univers à part lui. Sans le pouvoir de la voyante qui le forçait à mettre un pied devant l'autre, Richard serait sans doute tombé comme une masse. Jagang tenait Callan. Que pouvait-il se passer de plus grave? C'était la catastrophe ultime, la fin de tout.
Alors qu'il suivait Six dans une série de couloirs obscurs, Richard se dit qu'il devait intervenir. Callan avait besoin d'aide. D'abord prisonnière de Sœur de l'Obscurité, elle était à présent sans défense entre les mains du pire ennemi de son mari, un homme qui la détestait avec une passion meurtrière. Mais il y avait un point plus ou moins rassurant. Richard savait où se trouvait Jagang. Il marchait sur Dara, le torse bombé, et s'apprêtait à investir le palais du peuple. Et Callan l'accompagnait. Concentré sur ses pensées, Richard faillit ne pas s'apercevoir qu'il venait de sortir du château. Soudain, il comprit pourquoi Six n'était pas très bien.
Il y avait des soldats partout et il en arrivait toujours de toutes les directions.
Les tueurs de l'armée de l'ordre, oui, ceux qui campaient dans la vallée la veille, se comportaient comme s'ils étaient chez eux ou en terrain conquis. Marmonnant entre ses dents, Six regarda autour d'elle en quête d'un moyen de fuir la cour. Mais des soldats entraient et sortaient par toutes les issues, et le couloir qui menait à la sinistre pièce était déjà inaccessible, sauf à vouloir traverser une véritable marée humaine de soudards. Ces guerriers vêtus d'uniformes disparates étaient armés jusqu'aux dents, et il ne semblait pas du genre commode.
Habitué à voir des soldats de l'ordre, Richard n'était pas plus impressionné que ça, mais il comprenait très bien que si c'est les gardes du château se sentent dans leurs petits souliers face à de tels invités. Quand l'armée de l'ordre arrivait quelque part, mieux valait s'écarter de son chemin.
« Comme prévu, » dit un officier en approchant de la voyante, « nous sommes venus nous assurer que Tamarang est fidèle à la cause de l'ordre impérial. »«
C'était prévu, oui, » lui concéda Sis, « mais vous ne deviez pas arriver si tôt. »
Une main sur le pommeau de son épée, l'homme regarda autour de lui, étudiant la configuration des lieux. À la qualité de sa tenue et des armes qu'il portait, on devinait que cet officier était tout simplement le chef de l'expédition.
« Nous avons avancé plus vite que nous l'aurions cru, » dit-il. « Pas mal de cités se sont rendues sans résister. Voilà pourquoi nous sommes là maintenant, et pas au printemps prochain, comme nous l'avions annoncé. »«
Eh bien, je vous souhaite la bienvenue au nom de la reine, » soupira Sis. « Justement, j'allais la retrouver. »
L'officier portait une magnifique cuirasse très bien entretenue. Sous le vernis, on distinguait encore d'anciennes entailles récoltées sur les champs de bataille. Plusieurs anneaux décoraient son oreille gauche, et la moitié droite de son visage était tatouée, des écailles parfaitement imitées pour lui donner des allures d'homme-serpent.
« L'armée est au service de la noble cause de l'ordre impérial, » rappela-t-il. « Désormais, Tamarang est une composante de l'Empire dirigé par Jagang le Juste. J'espère que tout le monde dans ce château s'en réjouit. »
Le bruit des bottes couvrait le chant matinal des oiseaux. Tant de remue-ménage ne plaisait sûrement pas à la majorité des résidents du château, mais aucun n'aurait été assez stupide pour le dire.
« Cela va de soi !»
mentit Sis avec un naturel remarquable. Elle semblait avoir un peu récupéré de son choc initial.
« Bien entendu, la reine espère que vous respecterez les termes de notre accord, qui lui laisse l'entière jouissance du château, dont l'entrée restera interdite à tous les représentants de l'ordre, sauf invitation expresse. »
L'officier soutint un long moment le regard de la voyante.
Si ça peut faire plaisir à votre reine, moi ça m'est égal parce que le château ne me sera d'aucune utilité.
Il cligna des yeux, sursautant comme s'il était surpris de s'entendre proférer des propos pareils.
Cela dit, conformément à nos accords, le reste de Tamarang est maintenant une province de l'ordre impérial.
Presque toute son assurance revenue, Sis eut un petit sourire.
« Conformément à nos accords, exactement. »
Richard avait à peine suivi la conversation. Tirant parti de la distraction de Sis, il avait échappé à son emprise mentale. Au fond, ça revenait à écarter les mâchoires d'un piège pour s'en libérer, même si tout se passait dans le domaine de l'esprit.
Il était temps qu'il tente quelque chose pour son propre bénéfice et celui de Callan.
En plus d'avoir perdu son don, il s'était séparé de l'épée de vérité. Pour autant, il n'avait pas oublié tout ce que lui avait appris son arme, et encore moins les leçons que lui avait dispensées sa vie. S'il n'était plus un sorcier de guerre, il restait parfaitement capable de danser avec les morts, et de ne faire qu'un avec une lame. Il lui restait tout simplement à s'en procurer une. Alors que Sis et l'officier palabraient au sujet des territoires respectifs de l'ordre et de la reine, une vraie discussion de marchand de tapis, Richard étudia l'armement des hommes qui grouillaient autour de lui. Les épées des simples soldats semblaient de bien mauvaise facture. En revanche, le sous-officier qui se tenait un peu à l'écart de la scène, le regard rivé sur son chef, arborait une belle lame à la poignée recouverte de cuir. Avec un sourire un peu niais, Richard sortit une pièce en cuivre de sa poche et se mit à la faire rouler entre ses phalanges. Mimant la maladresse, il la laissa tomber. L'air penaud, il se pencha pour la ramasser. Ce faisant, il passa les ongles dans la terre battue, rapportant une petite quantité de sable qu'il récupéra en même temps que la pièce.
Le sous-officier, occupé à regarder son supérieur parler avec une voyante, accorda une attention minimale au crétin qui époussetait une pièce avant de la remettre dans sa poche.
Si c'était bien plus fascinante qu'un inconnu maladroit et à demi-idiot. Faisant mine de se nettoyer les mains, Richard se couvrit en réalité les paumes et les doigts de sable. Lorsque ça commencerait, il ne fallait pas que ses mains glissent sur le cuir. Sans se retourner, il se pencha vers le sous-officier, toujours fasciné par Sis, qui dictait maintenant ses conditions à l'homme qu'elle venait de subjuguer. Du coin de l'œil, Richard apercevait la poignée de l'arme qu'il convoitait. C'était effectivement une épée de très belle facture, largement supérieure à celle que portaient les simples soldats. Alors que Six et l'officier supérieur négociaient toujours, Richard se tourna à moitié et fit semblant de s'étirer. En un éclair, sa main se referma sur la poignée de l'arme. Une fraction de seconde plus tard, il l'eut dégainée. Serré, une épée fit remonter à sa mémoire tout un art de se battre qu'il avait répété et peaufiné pendant des heures. Si les leçons venaient d'une source surnaturelle, le savoir était bien réel et il n'avait rien de magique. L'expérience de tous les sorciers qui l'avaient précédé vivait à présent en lui. Même sans l'épée de vérité, il conservait ses compétences. Sans trop s'inquiéter, puisqu'il pensait avoir affaire à un demeuré, l'officier esquissa un geste pour récupérer son épée. Obligeant, Richard la lui enfonça dans la poitrine. Aussitôt, des dizaines de soldats dégainèrent leurs lames ou s'emparèrent de leurs haches de guerre. Richard se retrouva soudain dans son élément, l'esprit parfaitement clair. Il ne s'attendait pas à ouvrir si tôt le fameux compartiment, mais c'était le moment ou jamais, et il allait redevenir lui-même pour ne pas laisser passer cette chance. Kalan était avec Jagang et il devait voler à son secours. Tous ses soldats prétendaient l'en empêcher. D'un coup vif et précis, le sourcier trancha un bras qui brandissait une hache. Le cri de douleur du soldat et le geyser de sang qui jaillit dans les airs pétrifièrent un instant les autres hommes. Tirant parti de ce répit, le messager de la mort arma son bras et porta un deuxième coup qui traversa le ventre d'un soldat. Lâchant son épée, le type rendit l'âme avant même que la lame qu'il avait tuée soit ressortie de son corps. Enchaînant les séquences offensives et défensives, Richard esquiva une volée de coups aussi puissants qu'imprécis. Malgré le fracas des armes tout autour de lui, il n'entendait plus rien, à part ce qui pouvait lui servir. Plus rien n'échappait à son contrôle. Ses hommes espéraient sans doute le submerger par la grâce du nombre, mais ils se trompaient. En un sens, leur façon de penser était à son avantage. Combattant collectivement, comme si cela devait suffire face à un seul adversaire, ces soldats se privaient de l'inventivité et du sens de l'improvisation qui faisait toute la valeur d'un escrimeur. Leur stratégie stéréotypée devait automatiquement se retourner contre eux si on savait comment s'y prendre. Et Richard le savait. Alors qu'ils hésitaient, essayant de synchroniser leurs mouvements, il passa à l'attaque, une manœuvre qu'il n'attendait pas d'un homme seul censé se défendre contre plusieurs agresseurs, et les tailla en pièces avec une facilité dérisoire. Parfaitement maître de son sujet et de son art, il les laissa s'essouffler tandis qu'il se contentait de danser son ballet mortel. Chez lui, rien ne transpirait l'effort. Il ne se fatiguait pas et pourtant chacun de ses coups faisait mouche. On eût dit qu'il avançait dans une jungle, se frayant un chemin à coups de machette. Tout était dans le rythme, un balancement si bien réglé que la lame, toujours en mouvement, ne perdait jamais de la vitesse, en gagnant même au gré des frappes mortelles portées avec une légèreté et une grâce qui glaçaient les sangs. Contrairement à ses adversaires qui flanquaient dans le vide de grands coups de bûcheron, Richard travaillait dans la dentelle. Vif et précis, il n'entaillait jamais la chair plus qu'il était nécessaire pour neutraliser ou tuer chacun de ses adversaires. Tel un danseur étoile évoluant au milieu d'une meute d'ours lents et maladroits, il virevoltait, esquivait, ripostait et contre-attaquait avec une fluidité qui tenait du surnaturel. Tuer n'était plus un but, mais un moyen, une manière logique et incontournable de recouvrer sa liberté. Tandis que les soudards de l'ordre se décomposaient, affolés de ne pas venir à bout d'un homme seul, le messager de la mort qui semait la terreur dans leur rang ne perdait pas son objectif de vue. Inexorablement, Richard se dirigeait vers la sortie du château. Alors que sa danse semblait s'adapter exclusivement aux mouvements de ses adversaires, elle suivait une trajectoire bien précise qui menait à la liberté. Hors de ses murs, le sorcier, redevenu maître de son destin, pourrait s'engager sur le chemin qui le conduirait à Kalan. Concentré sur son but ultime, Richard tuait uniquement lorsque c'était nécessaire. Blesser, voire esquiver seulement, le satisfaisait si ça contribuait à le rapprocher du portail.
Malgré les cris des officiers, des ordres que nul n'entendait dans le feu de l'action et des soldats, l'expression d'une rage trop brouillonne pour être efficace, Richard s'était réfugié dans le noyau même de son être, en un lieu où rien ne pouvait l'atteindre s'il n'y consentait pas. Parfaitement calme, il commandait son corps avec une sérénité parfois proche de la nonchalance. Choisir une cible et la détruire lui semblait aussi naturel que respirer. Aguerri par des années de combat, il repérait immédiatement dans la masse de soudards les hommes qui se distinguaient du lot par leurs compétences et leur détermination. Conscient qu'ils étaient le seul véritable danger pour lui, car ils pouvaient amener leurs camarades à se comporter plus intelligemment, il abattait ses chefs potentiels dès qu'il les repérait. Ainsi, la meute qu'il affrontait ne pouvait jamais s'organiser et la panique menaçait de la gagner. Ses bouchers avaient cru qu'ils seraient intimidés par leur nombre et les cris de guerre effrayants qu'ils poussaient comme des loups en chasse. Mais rien ne se passait comme ils l'avaient prévu et le spectre d'une invraisemblable défaite commençait à les hanter. Ayant enfin atteint le portail, Richard décapita proprement les deux gardes qui tentaient désespérément de lui barrer le chemin. Puis, il franchit le seuil tant désiré et se pétrifia, reconnaissant en un éclair sa défaite. Une haie d'archers et d'arbalétriers l'attendait dehors. S'il s'obstinait, le sourcier finirait criblé de flèches et de carreaux. À si courte distance, rater une cible n'était tout simplement pas possible et il y avait assez de pointes d'acier braquées sur lui pour tuer un régiment. C'était fini.
« Très impressionnant !»
lança l'officier supérieur dans le dos du sourcier.
« Je n'avais jamais vu une chose pareille !»
L'homme semblait honnêtement stupéfié. Mais la cause était entendue. Avec un soupir, Richard laissa tomber son épée dans la poussière. L'officier vint se camper devant lui et l'observa attentivement. Six ne tarda pas à le rejoindre, sa silhouette noire évoquant comme d'habitude un oiseau de mauvais augure.
« Tu sais jouer au djala ?»
demanda l'officier à Richard. La question la plus étrange qu'on lui eût jamais posée, compte tenu des circonstances. Derrière lui, dans la cour, les blessés et les agonisants hurlaient de douleur ou appelaient en vain au secours.
« Oui, je sais jouer au jeu de la vie !»
répondit Richard, les yeux rivés dans ceux de l'homme. Son interlocuteur sourit, impressionné qu'il connaisse le sens du nom Jaladijin dans la langue natale de l'empereur Jagang. Se fichant apparemment du nombre de soldats que Richard avait abattus, l'officier hocha la tête comme s'il n'en revenait toujours pas d'avoir assisté à un tel spectacle. Richard ne se souciait pas non plus des morts et des blessés. Ces hommes avaient choisi de s'enrôler dans une armée de conquérants. L'idée de piller, de violer et de tuer les ayant séduits, et ils n'avaient jamais hésité à massacrer les hérétiques qui refusaient de croire aux diktats de l'ordre. Aujourd'hui, ils payaient simplement le prix de leur cruauté.
« J'apprécie que vous ayez neutralisé cet homme, » dit Six à l'officier. « La reine vous en saura également gré, sachez-le. Et la sentence qu'elle prononcera tiendra compte du courageux sacrifice de vos soldats. »
« Ce prisonnier a massacré mes soldats, » répondit l'officier. « Désormais, il est sous ma responsabilité. »«
Quoi ? Je ne permettrai pas que... »
Six se tut, soudain consciente que les arbalètes et les arcs étaient désormais pointés sur elle. Magie ou pas, elle savait, tout comme Richard, qu'elle n'avait pas une chance de s'en sortir vivante si les choses tournaient mal.
« Cet homme est mon prisonnier, »
dit-elle d'une voix calme mais ferme.
« Je le conduisais devant la reine pour... »
« Eh bien, à partir de maintenant, c'est mon prisonnier. Retournez au château. Selon nos accords, tout ce qui est autour appartient à l'ordre. Cet endroit n'est plus sous la juridiction de la reine, ni sous la vôtre. En conséquence, cet homme est prisonnier de l'armée de Jagang. »«
Mais je... » »«
Vous pouvez vous retirer, vous dis-je.
Sinon, je pourrais oublier notre pacte et faire égorger tout le monde dans votre foutu château. »
Six regarda une dernière fois les armes pointées sur elle.
« Nos accords tiennent, bien entendu, »
dit-elle, résignée à capituler.
« Je les ai honorés de mon côté et j'espère que vous ferez de même. »«
Bien parlé, madame. »
L'officier salua Six d'un bref signe de tête.
Et maintenant, laissez-nous faire notre devoir. Comme nous en sommes convenus, tous les résidents du château auront une totale liberté de mouvement. Et mes hommes ne les ennuieront pas. En revanche, nous ne tolérerons pas d'interférence dans nos affaires. »
Sur un ultime regard meurtrier pour Richard, la voyante se détourna et s'éloigna. Comme l'officier et ses tireurs d'élite, le sourcier la regarda traverser la cour sans accorder un regard aux morts, aux moribonds et aux blessés. Dès qu'elle eut disparu dans le château, le général se tourna vers Richard.
« Comment t'appelles-tu ? »
Répondre « Richard Rall » était naturellement hors de question. Richard Cypher ne valait guère mieux car de plus en plus de gens connaissaient le nom sous lequel avait grandi le futur maître de l'Empire d'Aran. Alors que faire? Un souvenir revint à la mémoire du sourcier.
Ruben Ribnik. Je m'appelle Ruben Ribnik.
Le nom que Z avait utilisé lorsqu'il voyageait incognito.
Eh bien, Ruben, je vais te donner le choix. Tu m'écoutes? Si tu préfères, nous pouvons t'écorcher vif, t'attacher à un poteau, t'ouvrir le ventre et te laisser mourir en regardant les vautours se disputer tes entrailles toutes chaudes. »
Des menaces en l'air, comprit immédiatement Richard. S'il voulait en finir vite, il lui suffisait d'attaquer l'officier et les tireurs d'élite lui régleraient son compte. Cela dit, il n'avait aucune envie de finir ainsi. Mort, il ne pourrait plus rien pour Callan.
Et si je ne préfère pas? Vous avez quoi d'autre à me proposer?
L'officier eut un sourire matois tout à fait adapté à la moitié reptilienne de son visage.
« Eh bien, toutes les divisions de notre armée ont des équipes de Jala. Celle de mon régiment est composée d'hommes à moi et d'athlètes d'exception rencontrés durant nos campagnes, des individus auxquels le Créateur a accordé un talent exceptionnel. J'ai été impressionné par ta façon de te frayer un chemin parmi mes hommes. Tu avançais vers le portail comme s'il s'était agi d'une ligne de but. Absolument rien n'aurait pu t'arrêter. En d'autres termes, tu as toutes les qualités pour faire un attaquant de pointe hors du commun. »
Un poste plutôt dangereux, si je ne m'abuse.
L'officier haussa les épaules.
C'est ça, le jeu de la vie. Nous cherchons un marqueur, mon gars. Le précédent n'a pas survécu à notre dernière partie. Alors qu'il tentait d'esquiver un arrière, il a mal réceptionné une passe et le broc lui a traversé la poitrine. On a dû le recoudre en catastrophe, mais ça n'a servi à rien, il a eu une sale mort.
Votre offre n'est pas très excitante.
Tu préfères tenter l'autre possibilité? Jouer les écorchés en plein soleil pendant que des charognards dégustent tes boyaux?
Aurais-je l'occasion de jouer contre l'équipe de l'Empereur?
L'équipe de l'Empereur?
Répéta l'homme, très intrigué.
Tu as la compétition dans le sang, dirait-on. Toutes les équipes rêvent d'affronter celle de l'Empereur, mon gars. Si tu es bon, nous aidant à remporter beaucoup de tournois, tu auras effectivement une chance de te frotter aux champions de Jagang, à condition de survivre jusque-là, bien entendu.
Dans ce cas, j'accepte votre proposition.
Tu veux devenir un héros? Un joueur de Jala adulé par les foules? Un as des as?
C'est bien possible, oui.
Tu rêves des conquêtes féminines que ça te vaudrait, pas vrai? Toutes ces belles plantes que tu n'aurais plus qu'à cueillir?
Richard pensa aux magnifiques yeux verts de Callan et à son sourire.
Cette idée m'a traversé l'esprit, oui.
Traverser l'esprit, mon œil. Eh bien, Ruben, oublie ça, parce que t'es pas un joueur régulièrement engagé. Tu restes un prisonnier, et très dangereux par-dessus le marché. Nous avons un protocole pour les joueurs dans ton genre. Tu voyageras en cage, dans un chariot. Tu en sortiras pour jouer et pour t'entraîner. Le reste du temps, tu seras un fauve en cage et rien de plus. Pendant les entraînements, il faudra travailler dur pour apprendre à collaborer avec le reste de l'équipe. Tu devras connaître les forces et les faiblesses de tous tes camarades. L'attaquant de pointe est très important, mais il n'est pas seul dans son équipe.
« Je comprends, »
dit Richard. À la guerre, il en allait de même, et les héros trop soucieux de leur petite gloire faisaient plus de mal que de bien. L'officier prit une grande inspiration.
« Très bien.
dit-il en glissant l'épouse dans son ceinturon.
« Si tu joues bien, fais-en de ton mieux à chaque match, et si nous réussissons à battre l'équipe de l'empereur, je t'autoriserai à choisir quelques femmes parmi toutes celles qui viendront acclamer les joueurs, avides de partager leur couche. »
« La séduction des vainqueurs ?»
dit simplement Richard.
« C'est ça, oui. Mais si tu fais la moindre erreur jusque-là, tu finiras écorché vif. »
« Marché conclu, » dit Richard. « Vous avez un nouvel attaquant de pointe. »
Le général, ou l'équivalent dans l'armée de l'ordre, fit signe à d'autres gradés d'approcher. Ils obéirent et le saluèrent avec empressement.
« Qu'on fasse avancer le chariot prison pour notre nouveau marqueur. Vous savez déjà à quel point il est dangereux. Ne le laissez pas s'enfuir, parce que j'ai hâte de le voir exprimer son agressivité sur un terrain. » Il serait agréable de gagner sur une base plus régulière. Bien, revenons-en à nos moutons. Postez des sentinelles autour du château et un peu partout en ville. D'une manière ou d'une autre, assurez-vous que les habitants de Tamarangue ne nous fassent pas d'ennuis. Ensuite, que tous les hommes en âge de travailler s'attellent à la construction des postes de réception pour nos convois de vivres. Avant tout, dénichez-nous un endroit assez vaste pour servir de plaque tournante à une armée gigantesque. Cherchez à l'extérieur de la ville, près du fleuve. L'été sera bientôt fini, l'automne passera comme un songe, et l'hiver sera là en un clin d'œil. L'intendance joue un rôle capital dans cette campagne. Pour survivre à l'hiver, toutes nos troupes dispersées dans le Nouveau Monde auront besoin de ravitaillement. Les citadins nous fourniront le matériel nécessaire à la construction. Le fleuve sera très pratique pour le transport des billots de bois dont nous aurons besoin. Mais pour les acheminer jusqu'au chantier, il faudra ouvrir de nouvelles voies de communication.
Nous avons soigneusement préparé cette phase de l'opération, général,
assura un des officiers. Richard supposa que l'ordre espérait recevoir l'aide de Tamarangue pour la construction du dépôt géant. Quand une ville se soumettait sans résistance à l'ordre, il était souvent plus rentable de ne pas la raser aveuglément, car il fallait ensuite reconstruire ce qu'on avait dévasté.
« Je vais partir demain avec le gros de notre régiment, et je voyagerai avec le premier convoi de vivres. Jagang veut que tous les hommes valides participent à l'assaut décisif contre l'Empire d'Aran. »
Impassible, le chef de cet empire, rien de moins, écouta les officiers ennemis discuter du plan visant à écraser définitivement toute résistance de la part du Nouveau Monde. La fameuse bataille finale. Un conflit que Richard avait rendu impossible, une décision dont il se félicitait de plus en plus.